Pierre est entré dans l'enclos des singes avec Alban Lemasson, accompagné de Catherine Blois-Eulin. Tous deux sont maîtres de conférences à l'université de Rennes 1. Et là, attention, ça va barder dans la volière.
Là, on va aller voir les Mônes de Campbell et on va s'intéresser à une partie de leur répertoire vocal. C'est ce qui correspond à leur cri d'alarme. Ce sont des cris qu'ils vont émettre lorsqu'il y a un danger. Donc on fait des études en comparaison avec des groupes captifs et des groupes sauvages. Et on a étudié leurs cris en contexte naturel. Et on s'est rendu compte, par exemple, que les mâles et les femelles avaient un cri pour signaler la présence d'un léopard et un cri différent pour signaler la présence d'un aigle. Ils ont au total 7 cris d'alarme pour signaler la chute d'un arbre, pour signaler la présence d'un léopard, pour signaler la présence d'un aigle, ou signaler la présence d'un mouvement inhabituel dans leur environnement lorsqu'ils entendent un bruit soudain qu'ils n'arrivent pas à identifier.
On ouvre la cage.
On va aller poser au milieu de l'enclos le serpent. On va enlever le tissu pour essayer d'enregistrer des cris d'alarme.
Ah mais c'est impressionnant, ils se sont, tous les 13 se sont mis sur une branche face au serpent.
Ils sont tous en train de le regarder et tous en train d'émettre un cri d'alarme.
Et tous le même?
Oui.
Ah, ils sont figés, hein. Et il y en a un plus audacieux que les autres?
On va multiplier ce genre d'expérience en changeant de prédateur. On va leur présenter un modèle de léopard empaillé, un aigle empaillé. On va, avec des haut-parleurs, leur repasser des cris de prédateurs. Et on va constater que le cri d'alarme qu'ils vont émettre en conséquence va différer selon le type du prédateur. Par exemple, lorsque le mâle émet un cri léopard ou un cri aigle, la femelle qui entend le cri du mâle ne va pas se comporter de la même manière. Ok. Stop!
Eh ben, vous venez d'envoyer un espèce de frisbee au-dessus de la cage des singes pour simuler une attaque aérienne dont ils n'ont pas l'habitude du tout, et ça réagit violemment, hein. Et ça, qu'est-ce que c'est comme espèce de singe?
Ça, c'est un mangabé à collier. Combien ça pèse un mangabé?
Un mâle adulte doit faire 15-16 kilos.
Ils ont des joues blanches, le haut du crâne marron et le reste du corps gris, hein, toujours.
Donc là, ce que l'on entend derrière, parce que ça continue de les perturber, c'est différents cris d'alarme.
Et alors là, qu'est-ce que ça apprend ?
En tant qu'éthologiste, bah, ça nous permet de comprendre leur système de communication. Est-ce qu'ils ont, comme on a chez nous, un système sémantique ? C'est-à-dire que nous, on utilise des mots qui ont un sens. Est-ce que eux, leurs cris ont un sens ? Et là, on voit que le cri d'alarme a un sens pour eux puisqu'il avertit de la présence d'un danger. Donc c'est un moyen plus efficace pour eux de se protéger. Par exemple, si on fait ça avec un aigle qui vient d'en haut, il vaut mieux descendre pour se protéger. Un léopard qui vient d'en bas, il vaut mieux monter pour se protéger.
Si on... Qu'est-ce qui se passe là ?
Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça a énervé tout le monde, la manip que l'on vient de réaliser. Et donc, les mâles des différents groupes sont en train de se répondre d'un bout à l'autre de l'élevage.
Vous savez que c'est toujours le même type de cri qui correspond à un danger aérien, un danger terrestre ?
Il y a beaucoup d'espèces de singes qui ont différents cris pour différents prédateurs.
Si vous enregistrez le cri d'un danger aérien, que vous le diffusez par haut-parleur, ils vont réagir de la même façon.
Ils vont descendre au sol pour se protéger. Si on diffuse un son qui informe d'un danger terrestre, ils vont monter dans les arbres pour se protéger parce qu'ils sont capables de comprendre le message véhiculé par le cri d'alarme.
Est-ce que les femelles ont des cris plus perçants, puisque chez les humains, les femmes ont des cris plus perçants ?
D'une manière générale, chez tous les primates, les singes et l'homme, la voix devient de plus en plus grave avec l'âge et avec le poids. Donc la différence mâle-femelle, on la retrouve de la même manière. De plus, chez les cercopithèques, les mâles ont leurs cris, les femelles ont d'autres cris.
Et est-ce que les femelles communiquent plus que les hommes, comme chez les êtres humains ?
Dans les harems, les mâles et les femelles ne communiquent pas sur la même chose. Les mâles vont informer des dangers de prédation, vont gérer les mouvements des groupes, alors que les femelles vont gérer la vie sociale par des cris amicaux, des cris de menace, tout ce qui gère la vie intra à l'intérieur du groupe.
Donc on peut vraiment comparer ça avec les êtres humains alors ?
Nous sommes des primates.
Là, tout le monde est énervé, je crois que c'est l'anarchie totale. Zoom, 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 zoom. Back in history, before time began, all the real cool cats had a solid plan. When they dug a nervous chick, they all to a man went. Ape call, dooliaba, ape call, dooliaba, ape call, dooliaba. You wanna be cool, man? Go ape. Young Mighty Joe swinging through the trees was the king of everything that roosted in the leaves. But when he saw a girl ape a hanging in the breeze, he went, ape call, dooliaba, ape call, dooliaba, ape call, dooliaba. You like to be hip, boy? Go ape. A pterodactyl was a flying fool. Just I thought I'd break in and tell you what a pterodactyl was. Well, it was sort of a stork-looking bat with sharp teeth that cruised around looking for... Say, we haven't changed a bit, have we, cats? A pterodactyl was a flying fool, just a breeze-flapping daddy of the old school. But a mama dactyl could sure make him drool. Ape call, doodly-abba. Ape call, doodly-abba. Ape call, doodly-abba. Don't be a square, Joe. Go ape. Now old Papa Tiger was the boss of the Nile, just a sport model cat with a solid style. He was old King Cool till the girl tiger smiled. Ape call, doodly-abba. Ape call, doodly-abba. Ape call, doodly-abba. Bezorch daddy-o. Go ape. Adam was the first boy in the land, a big Mallaroony daddy with an iron hand. But when little Eva said, hi, man. Ape call, doodly-abba. Ape call, doodly-abba. Ape call, doodly-abba. Don't be a cube rube. Go ape. So remember to ape call today.
Gérés ou stimulés par les miroirs, les plans d'eau et les frères jumeaux, le concept du double est commun à de nombreux pays. On peut supposer que des devises comme « un ami est un autre moi-même » de Pythagore ou le « connais-toi toi-même » platonicien s'en sont inspirés.
Connais-toi toi-même.
En Allemagne, on l'appela le doppelganger. En Écosse, le fetch, car il vient chercher fetch les hommes pour les mener à la mort. Se retrouver face à soi-même est donc funeste. La tragique ballade Ticonderoga de Robert Louis Stevenson rapporte une légende sur ce sujet. Souvenons-nous aussi de cet étrange tableau de Rossetti, How They Met Themselves, où deux amants se retrouvent face à eux-mêmes dans le crépuscule d'un bois. On pourrait prendre des exemples analogues dans l'œuvre d'Hawthorne, de Dostoïevski ou d'Alfred de Musset. Pour les Juifs, au contraire, l'apparition du double n'était pas le présage d'une mort prochaine, c'était la certitude d'avoir atteint l'état prophétique. C'est ce qu'explique Gershom Scholem. Une tradition recueillie par le Talmud raconte le cas d'un homme en quête de Dieu, qui se retrouva devant lui-même. Dans le récit d'Edgar Poe, William Wilson, le double est la conscience du héros. Celui-ci le tue et meurt. Dans la poésie de Yeats, le double est notre envers, notre contraire, notre complément, celui que nous ne sommes pas et ne serons jamais.
Thank you. et maintenant approche du fonctionnement cérébral du macaque avec Ivo Vanzetta et Adrian Ponce, chercheurs en neurosciences à Marseille qui travaillent au quotidien avec des primates et qui se prêtent, pour notre plus grand plaisir, au jeu de la réinterprétation faunesque de la parole scientifique.
Les neurones communiquent avec des impulsions électriques. Et dans ce cas, on écoute 4 neurones qui ont été enregistrés dans le cortex moteur du singe. En l'occurrence, un macaque. Donc, quand on fait de la recherche de neurosciences cognitives, on s'intéresse à comment les neurones communiquent entre eux. Et donc, on va enregistrer ces impulsions électriques pendant que le singe il est en train de faire des tâches cognitives comme mémoriser un stimulus ou préparer un mouvement ou estimer un temps et anticiper des événements. On essaye de comprendre comment sont codés les processus cognitifs dans le système neuronal. Il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent que c'est juste la fréquence des impulsions qui compte, mais comme on voit, c'est des processus super aléatoires et il y a une autre vision qui pense que c'est plus une synchronisation entre les neurones qui porterait ces processus. Les réseaux neuronaux, c'est des systèmes super complexes où un neurone il reçoit 10 000 connexions d'autres neurones. Et donc ça fait des systèmes archi complexes qui ont un comportement chaotique. C'est des systèmes, par exemple, comme l'atmosphère où c'est plein de particules dans un gaz et qui interagissent.
Qu'est-ce qu'on fait en neurosciences cognitives ? On essaie de se poser la question comment fonctionne en fait le cerveau, notamment le cerveau humain, et comment il processe et élabore l'information qui rentre par les sens pour à la fin faire une action, notamment se retrouver dans un contexte plus ou moins, plus que moins compliqué d'interactions sociaux avec l'environnement, etc. Il sera nécessaire de regarder d'autres cerveaux, d'autres modèles qui sont similaires, mais en même temps pas identiques.
Maintenant, ça fait un siècle qu'on utilise le macaque comme modèle animal. Vu qu'on a beaucoup de données sur ça, c'est difficile de changer de modèle ou de passer à une autre espèce.
Parfois, il se trouve est avantageux de comparer le fonctionnement et l'organisation fonctionnelle du cerveau du primate et le cerveau de l'homme. Alors, je suis tombé sur un article qui était publié dans une des revues les plus prestigieuses, le PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, par une équipe de chercheurs de Harvard. Et ils étaient intéressés par la question comment le cerveau analyse les visages. Il se trouve que chez l'homme, on a individué, à travers la technique d'imagerie pour résonance magnétique fonctionnelle, en ce moment, trois aires corticales, trois régions dans le cerveau qui s'occupent d'analyser les visages. Et ils ont fait la même étude, une IRMF, chez les macaques. Ils ont trouvé que chez les macaques, il y a six aires qui font des tâches similaires, c'est-à-dire qui s'occupent des visages du singe. Et la question, évidemment, se pose pourquoi chez les deux espèces il y a cette différence et pourquoi il y a cette similitude. Est-ce que c'est dû à une différence d'évolution génétique, vu que quand même on est cousins avec une delay de grosso modo, avec une branching point de grosso modo 20 millions d'années, ou si c'est dû à une spécialisation différente de gérer notre environnement.
Le génome du macaque est très, très proche de celui de l'homme. Pour les processus qu'on étudie, on fait l'hypothèse que les bases neuronales doivent être les mêmes. C'est des processus ne sont pas très compliqués. On dit que c'est des processus de bas niveau.
Il y a de plus en plus d'évidence que supporte ça, qu'il y a une similitude très 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 forte dans l'organisation fonctionnelle entre l'homme et le macaque, sans être égal par ailleurs, mais représentant le même principe. C'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier. Parce que ce sont les seuls animaux qui sont suffisamment complexes du point de vue comportemental et du point de vue cognitif pour être représentatifs de tâches humaines. Ce sont les seuls animaux à qui on peut demander de faire des tâches et que implique à la fin de la production de cette tâche une réponse. Clairement, le singe ne peut pas nous parler, ne peut pas nous dire oui ou non, mais il peut par exemple appuyer sur des boutons en fonction des choses qu'il voit, des choses qu'il entend.
Par exemple, on peut lui apprendre à dessiner, on peut lui apprendre à s'en servir d'un ordinateur, bien d'utiliser même un langage.
Une des approches qui est devenue commune récemment avec le développement de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est de prendre un sujet, par exemple un être humain, de lui faire faire une tâche, par exemple appuyer sur un bouton droit ou sur un bouton gauche sur un clavier, selon ce qu'il voit sur un écran, et d'enregistrer son activité cérébrale en même temps. On peut travailler sur deux binaires différentes. Une, c'est de simplifier le plus possible les tâches, de séparer. Et l'autre, c'est par contre de faire ce qu'on appelle des perturbations. C'est-à-dire, on perturbe de façon possible temporaire une partie des aires qui sont activées. Une méthode qui devient plus et plus d'actualité, et c'est la TMS, c'est une petite machine qui envoie des ondes électromagnétiques très fortes dans une région très focalisée du cerveau, et pour un moment très bref arrive à inactiver cette partie. Donc, si comme résultat de cette pulse TMS, la tâche n'est plus performée correctement par le sujet, on peut en déduire que l'activité dans cette partie du cerveau était vitale pour performer la tâche. Donc ce n'était pas un épiphénomène. Si par contre, ce n'est pas le cas, cette activité était due à d'autres choses mais n'était pas vitale pour la tâche, donc un épiphénomène. Il y a beaucoup de recherches faites dans le contexte de comprendre qu'est-ce que c'est la cause de l'autisme, éventuellement pour développer des thérapies. Et ça s'est fait et chez les humains et d'une façon un peu plus mécaniste chez les primates. L'aspect biomédical, ce sont des études sur le cerveau, d'ailleurs pas que des primates, mais aussi d'autres modèles animaux, qui ont une retombée presque immédiate, sur un range de quelques années, et qui sont ciblées pour traiter ou pour mieux comprendre certaines maladies, en particulier des maladies neurologiques ou neurodégénératives. Des exemples classiques, c'est la maladie de Parkinson, pour laquelle les études sur le primate ont permis de développer une série de thérapies. Mais ce qui m'intéresse personnellement le plus sont les conséquences que ce genre de recherche a pour notre savoir, donc les recherches fondamentales. La recherche fondamentale, normalement, n'a pas une application immédiate. C'est une compréhension des systèmes et que, dans un deuxième temps, aidera à développer des techniques, des technologies, à inventer des choses qui auront des applications directes pour augmenter la qualité de la vie des êtres humains. Par exemple, les études faites dans la deuxième moitié du XXe siècle pour ce qui concerne le système visuel des primates sont en train de permettre dans ces moments de commencer à développer des prototypes des rétines artificielles. La même chose concerne les développements de prothèses motrices, par exemple.
On peut utiliser les signaux du cortex moteur pour faire bouger une chaise roulante ou des bras robotiques et aider ce type de patient. D'ici une vingtaine d'années, il y aura des prothèses qui sont guidées par les signaux du cerveau.
C'est un peu la direction, je pense, d'optique dans laquelle il faut voir les rapports entre la recherche dans le sens fondamental et l'utilité pour la société humaine.
En dehors de l'expérience, on passe du temps avec le macaque. Et là viennent d'autres questions qui sont plus d'ordre philosophique que de...
D'un point de vue individuel, je peux dire que le travailler avec les animaux, en particulier travailler avec des primates, c'est une expérience bien instructive. Pas toujours simple, parfois très forte, parce que aussi ce sont des animaux qui ont un caractère plutôt fort.
Après, c'est une relation entre deux animaux, un qui essaie de comprendre l'autre et l'autre peut-être... On est face à un abîme quand on est en face d'un animal, parce que on n'a pas la même perception. Des fois, on pense.
On se trouve en face avec un animal complexe qui reste cependant un animal, qui a sa volonté, ses intérêts, a son désir d'un côté. Te plaire, parce que c'est un animal domestiqué, donc de faire bien sa tâche. D'autre côté, il a aussi ses caprices, etc. C'est la nécessité, comme chercheur, de développer un rapport et d'instaurer une relation qui change d'individu à individu.
Après, le problème, c'est que nous, on transmet nos sentiments. On fait des transferts anthropomorphiques où on donne des sentiments humains aux animaux et en fait on n'en sait rien parce qu'on n'a pas la même perception. C'est inhérent à l'homme de projeter son humanité sur les objets, sur les plantes, sur les animaux.
Après, bien évidemment, l'autre question est d'être confronté à se poser de façon directe la question sur l'utilité et l'importance de l'expérimentation sur les animaux.
On ne peut pas se dégager de notre humanité. Frontière floue et en même temps c'est une vraie frontière parce que nous avec nos mots on peut pas expliquer cette différence qu'il y a.
les rues d'occasion perdues. L'homme sait qu'il n'a qu'une chance sur un million d'établir le lien qui animera la créature qu'il porte en lui. S'il n'y parvient pas, la petite créature mourra. Cette pression le rend positivement impitoyable. Tout pour protéger l'enfant. Il peut mentir, faire semblant, tuer sans l'ombre d'une hésitation. Car il est le porteur et le gardien de l'enfant unique sur un million. Il y eut certes des espèces qui s'éteignirent avant l'homme, mais l'homme sagouin ajouta un raffinement supplémentaire. Il a tué pour se nourrir, mais il a aussi tué pour le plaisir, c'est certain. En outre, il a tué pour la seule atrocité de la chose en lui. L'esprit malin qui a trouvé un digne réceptacle en Homo sagouin, la bête hideuse. Qu'est-ce qui distingue l'homme sagouin des autres animaux? Grâce à l'écriture ou à la tradition orale, il peut transmettre de l'information à d'autres êtres humains, situés hors de sa proximité immédiate, ainsi qu'aux futures générations. Cette particularité amena le comte Korsbisky à qualifier l'homme d'animal arrêtant le temps. Et elle peut se réduire à un mot, le langage. L'homme a vendu son âme en échange du temps, du langage, des outils, des armes et de la maîtrise. Et pour s'assurer qu'il ne fasse point de faux pas, ses envahisseurs maintiennent des troupes d'occupation dans son lobe cérébral non dominant. Sinon, comment expliquer qu'une chose telle que la latéralisation représente un handicap biologique? Ils lui ont donné d'une main et repris de l'autre. 50-50. Qu'est-ce qui pourrait être plus honnête que ça? À peu près n'importe quoi. Il semble donc vraisemblable que ces facteurs spécifiques tels que le langage et la latéralisation se trouvent liés. Il semble peu vraisemblable que le langage ait été conçu à seule fin de transmettre de l'information. L'organisme humain est donc structuré autour d'une faille. La faille ou la fissure entre les deux lobes cérébraux, si bien que toute tentative de synthèse reste irréalisable en termes humains. J'établis un parallèle entre cette faille séparant les deux côtés du côté humain et la faille qui sépara Madagascar du reste du continent africain. L'un des deux pans créés par cette faille dériva dans une innocence enchantée et intemporelle. L'autre évolua inexorablement vers le langage, le temps, l'emploi des outils, l'usage des armes, la guerre, l'exploitation et l'esclavage. William Burroughs, l'ombre d'une chance.